Mes bien chers frères, l'enregistrement de l'homélie que j'ai adressée aux religieuses n'a malheureusement pas réussi. Je reviens donc vers vous pour vous adresser ce que j'ai pu dire à nos religieuses hier à l'occasion de la cérémonie de leurs vœux. Après tout, ce que je leur ai dit vous concerne. Cela vous permet de mieux les connaître, connaître ces religieuses qui œuvrent pour vos âmes, pour l'âme de vos enfants. Et puis cela intéresse aussi les jeunes filles que Dieu appellerait à cet idéal de vie religieuse. La question est toute simple. Quelle est la différence entre la vie religieuse et la vie dans le monde, qu'est la vôtre ? Dans l'Église, il y a effectivement deux manières de se sanctifier. Il y a la manière de ceux qui vivent dans le monde, par exemple de ceux qui sont dans l'état de vie conjugale, et puis il y a effectivement la manière de ceux qui vivent dans l'état de vie consacrée, dans l'état de la vie religieuse. Et à cet état se rattache l'obligation, comme pour vous d'ailleurs, de se sanctifier, mais non pas à la mesure d'une moyenne, mais à la mesure de la perfection, en ce sens que leur but est de tendre à la charité parfaite. En effet, le bon Dieu nous a tracé deux voies pour aller à lui, pour aller au ciel. La voie des commandements, commune à tous. La voie des commandements à laquelle personne ne peut échapper. C'est ce qu'on appelle aussi la voie des préceptes. Et puis, on pourrait dire parallèlement, une autre voie, une sorte de raccourci, donc plus escarpée, plus raide, plus aride, plus pentue, c'est la voie des conseils évangéliques, comme l'indique notre Seigneur en répondant à ce jeune, « Si tu veux être parfait, vends tous tes biens et suis-moi. » La vie religieuse, mes bien chers frères, est donc la pratique de l'Évangile dans sa radicalité, dans ce qu'il a de plus radical. Oui, opter pour la vie religieuse, c'est choisir de tout donner, de tout offrir entièrement, spontanément, totalement, exclusivement, sans partage, comme c'est le cas dans le mariage, c'est ce que dit saint Paul, l'homme ou la femme est comme partagé entre son conjoint et Dieu. Son conjoint qui doit satisfaire, c'est son devoir, et puis bien sûr le bon Dieu qu'il doit servir. Ce don total de soi-même qui se pratique dans la vie religieuse s'articule autour des trois vœux de religion. Les trois vœux que vous connaissez, dont vous entendez parler souvent, les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et ces vœux se font en réaction à ce qui peut nous opposer à Dieu. C'est-à-dire cette triple inclination que nous héritons du péché originel, qu'on appelle la triple concupiscence. Il y a d'abord la concupiscence des yeux, qu'on appelle aussi la cupidité. C'est cet attachement désordonné pour les biens de la terre, pour les richesses. Et à cette inclination s'oppose donc le vœu de pauvreté. Et ensuite, la concupiscence de la chair, c'est tout ce qui se rattache à l'intempérance, à la luxure et donc à l'impureté en particulier. Et à cette concupiscence s'oppose donc le vœu de chasteté. Et puis enfin, la dernière inclination qui n'est pas la moindre, c'est notre orgueil. Notre orgueil. et contre l'orgueil, se présente le vœu d'obéissance. Et ce qui inspire chacun de ces vœux, c'est évidemment la charité. La charité qui est au point de départ comme au point d'arrivée, en ce sens que le religieux ou la religieuse se donne ainsi au bon Dieu par amour. Par amour. Par amour de Dieu et pour l'amour de Dieu. Ce don s'inspire de l'amour et doit aboutir à l'amour, doit effectivement faire tendre le religieux ou la religieuse à une charité parfaite. Ces vœux ne sont évidemment pas arbitraires. Chacun trouve sa raison, comme je viens de le dire, dans la charité parfaite. Et en plus, ces vœux, on peut le dire, sont en relation les uns avec les autres. Il y a une sorte de connexion entre eux, comme entre les vertus. Il y a des liens entre les vertus, et il y en a aussi, évidemment, entre les vœux. Et le premier d'entre eux, c'est celui que chaque vœu a avec la charité. L'exemple pour la pauvreté. Pourquoi la pauvreté? Pour se détacher de ce qui pourrait m'empêcher d'aimer librement le bon Dieu, de l'aimer entièrement, me détacher de ce qui est en bas pour m'élever davantage vers ce qui est en haut, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc être plus à Dieu, être mieux à Dieu. Et on observe également que la pauvreté établit le religieux ou la religieuse dans un état de dépendance, puisqu'il se prive de ce qui garantit l'autonomie. Et cet état de dépendance le dispose à la vertu d'obéissance, donc au vœu d'obéissance. La chasteté concerne à la fois le corps et le cœur, mais ce doit d'abord être le don du cœur. Il s'agit, par ce vœu, de se donner à un amour unique, exclusif, qui fait que nos religieuses sont, on peut le dire dans un sens mystique, dans un sens spirituel, véritablement épouses du Christ. La chasteté les lie, encore une fois, à la charité théologale. Quant à l'obéissance, c'est le renoncement à ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire notre volonté propre. Ça n'est pas simplement le renoncement aux choses de ce monde, comme le vœu, la pauvreté, mais c'est le renoncement à la volonté même de posséder, le renoncement à sa volonté propre. C'est le vœu qui nous fait désirer de n'accomplir que la volonté de Dieu. Le vœu destiné à mieux servir pour mieux aimer. Qu'il me soit fait selon votre parole. Ces vœux sont généralement des engagements définitifs. En cela, ils lient le religieux ou la religieuse à Jésus-Christ pour toujours. De ce fait, l'amour est encore plus fort, l'amour est encore plus radical. Voilà pour ce qui concerne la vie religieuse en général, c'est-à-dire voilà ce qui touche à la fin générale de la vie religieuse. Voilà ce qui est commun entre tous les religieux, quels qu'ils soient, de quel ordre qu'ils soient, de quelle congrégation religieuse qu'ils soient. Maintenant, intéressons-nous à ce qui touche à la finalité spécifique de nos religieuses, de la fraternité Saint-Pie-X, ces religieuses qui vivent au prieuré Notre-Dame du Rosaire. Pour introduire mon propos concernant la finalité spécifique, je m'inspirerai de ce que Saint-Grégoire le Grand explique à propos de l'évangile de Quasimodo. Il fait remarquer que notre Seigneur donne déjà le Saint-Esprit aux apôtres, alors qu'ils le recevront à nouveau à la Pentecôte. Il y a, dit-il, une différence. Aujourd'hui, dans l'Évangile, notre Seigneur leur donne le Saint-Esprit sur la terre. Il est lui-même sur la terre. Tandis qu'à la Pentecôte, notre Seigneur donnera le Saint-Esprit du ciel. Saint Grégoire explique que cela est pour marquer la différence entre l'amour envers le prochain et l'amour envers Dieu. Le Saint-Esprit qui nous est donné sur la terre, c'est pour l'amour envers le prochain. Le Saint-Esprit qui nous est donné du ciel, c'est pour l'amour envers Dieu. L'amour envers Dieu regarde plutôt ce que l'on a vu, c'est-à-dire la fin générale de la vie religieuse. Le fait pour le religieux, pour la religieuse, d'être tout à Dieu, d'être totalement voué à Dieu. Tandis que l'amour envers le prochain regarde plutôt la fin spécifique. C'est surtout dans ce domaine, sous le rapport de l'amour envers le prochain, que se présentent les caractéristiques de chaque congrégation religieuse. L'amour envers le prochain, c'est évidemment l'amour envers les membres du Christ. Donc c'est l'amour envers l'Église. Il y a l'amour envers notre Seigneur en personne, voilà ce qui regarde plutôt la fin générale. Et il y a maintenant l'amour envers les membres du Christ, envers son Église. Et on voit ici les religieuses intervenir non pas en qualité d'épouse, comme c'est le cas pour ceux qui regardent la fin générale, mais plutôt en qualité de mère. Elles vont aider l'Église à enfanter des âmes à la vie surnaturelle et surtout à la gloire du ciel. Après tout, c'est logique, si elles sont épouses du Christ, elles le sont pour être aussi mères. Une épouse est généralement mère, devient généralement mère. Une épouse l'est pour être mère. Et c'est même, ce doit être aussi le cas donc, pour nos religieuses. Une maternité évidemment spirituelle, mystique, mais réelle, en participation avec la maternité de l'Église et même, et plus spécialement, en participation avec la maternité de la Très Sainte Vierge Marie. Et c'est pourquoi nos religieuses sont particulièrement placées sous la protection, sous le patronage de Notre-Dame de Compassion. Notre-Dame de Compassion, c'est la Vierge Marie au pied de la croix qui nous enfante dans les douleurs de sa compassion. Elle est au pied de la croix pour participer au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur nous mérite hein, par sa croix la grâce, la rémission de nos péchés, la vie surnaturelle. Et la Très Sainte Vierge y participe. Et c'est un peu à sa suite que nos religieuses, elles aussi, hein, participent en tant qu'épouses du Christ au salut des hommes, au salut des âmes. Et en cela, elles exercent, à la suite de la Très Sainte Vierge Marie, une maternité spirituelle sur les âmes. Et nos religieuses l'exercent, cette maternité, à un titre très particulier. Et cela fait, entre autres, leur spécificité au titre d'auxiliaire des prêtres. C'est le nom, d'ailleurs, que Monseigneur Lefebvre a voulu, en quelque sorte, leur donner. Ce titre d'auxiliaire des prêtres. D'auxiliaire des prêtres. Elles travaillent hein, en qualité de mère en tant qu'elles collaborent au ministère des prêtres. Elles collaborent au ministère des prêtres en venant à leur aide. En venant à leur aide. En venant en aide à leur ministère paroissial. En venant au service des prieurés, comme vous le savez. Et Mgr Lefebvre a voulu, en quelque sorte, résumer leur office, leur mission, en deux mots clés, compléter et faciliter. Elles ont pour mission de compléter l'apostolat sacerdotal et de le faciliter. Et ceci est vrai même par rapport à leur vocation en général, en tant que simple religieuse, hein, ce qui regarde, comme je le disais tout à l'heure, la fin générale, du fait qu'elles se vouent à Dieu, qu'elles sont toutes à Dieu, par la prière, par l'offrande de leur vie, par leurs vœux, eh bien déjà elles complètent le ministère sacerdotal, sans aucun doute. C'est l'apostolat de la prière, c'est l'apostolat de l'adoration, du sacrifice, de l'offrande. Et en cela, elle nous facilite l'apostolat. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si tel ou tel prêtre parvient à toucher les âmes, c'est certainement, entre autres, grâce à la mission de nos religieuses. Et puis, évidemment, cette mission de compléter, de faciliter le ministère sacerdotal se vérifie, hein, par rapport à ce qui est, à ce qui leur est propre. Ce service qu'elles ont à remplir dans l'Église, hein, pour également pour aider l'Église à enfanter les âmes à la grâce. Et en cela, leur mission est très variée. Alors, vous les connaissez au prieuré, vous connaissez leur mission, c'est d'œuvrer au sein d'une école, une école primaire. Oui, ça fait partie notamment de leur vocation, les écoles primaires, l'enseignement dans les écoles et l'enseignement du catéchisme, et plus spécialement la préparation des sacrements. La préparation qu'elle assure est généralement très précieuse, très efficace. Vous êtes bien placés pour le savoir et je pense que la plupart d'entre vous appréciez énormément leur intervention dans ce domaine. Et puis, les religieuses œuvrent aux côtés des prêtres dans le cadre des maisons de retraite spirituelles, comme vous le savez, à Gâtines, par exemple, au Pointé, en France, même dans le cadre des séminaires. Alors, c'est moins connu, mais il y a, dans la fraternité, au moins un séminaire, celui d'Argentine, où se trouvent des religieuses. Et puis, il y a tout l'apostolat auprès des malades. D'ailleurs, nous avons une maison, hein, destinée à accueillir les personnes âgées. Et dans cette maison se trouve une communauté de religieuses. Mais même en dehors de ce contexte, nos religieuses, et celles des Fournils notamment, se rendent de temps en temps auprès de personnes âgées et parfois de malades. Là encore, pour compléter, faciliter l'apostolat sacerdotal. Et puis, plus largement, il y a la formation aux vertus chrétiennes par le moyen d'autres œuvres de jeunesse, hein, par exemple les camps d'été ou la croisade eucharistique. Les camps, hein, pour jeunes filles et la croisade eucharistique pour les enfants. À cela s'ajoute ce que vous savez, hein, l'aide à la sacristie, l'aide pour l'entretien des linges d'autel, des ornements, parfois pour la chorale, pour la célébration en fait de la liturgie, la digne célébration. Si nous pouvons parfois célébrer dignement les offices, c'est grâce aux sœurs qui ont préparé les autels admirablement, qui nous ont préparé les ornements, qui les ont entretenus, etc. Et puis même le ménage en général. Voilà, hein, voilà ce que les sœurs apportent dans l'Église. Et vous comprenez que que leur mission est très précieuse. Voilà, nous ne remercierons jamais assez le bon Dieu de nous avoir envoyé des religieuses. Alors, nous ne pouvons que leur souhaiter, hein, de se représenter, comme nous y invite l'évangile de Quasimodo, de se représenter toujours dans le cénacle, les portes étant fermées. Voilà. Les religieuses, oui, sont en quelque sorte fermé au monde. C'est ce qu'exige, hein, la vie religieuse, une certaine fermeture au monde. Non pas qu'elle ne s'intéresse pas, hein, à ceux qui vivent dans le monde, bien au contraire, mais elle se ferme au monde, hein, pour s'occuper exclusivement de ce qui regarde le salut. Hein. Donc, ce qui regarde notre salut. Voilà. Et elles se retrouvent avec Jésus-Christ qui se tient au milieu d'elles. Et que font-elles? Eh bien, elles contemplent les plaies de notre Seigneur comme les apôtres. Les plaies de notre Seigneur nous renvoient bien sûr au mystère de notre salut, au mystère de la croix, au mystère de la rédemption, au mystère de la charité et justement à la Sainte Messe. Et c'est une des particularités des sœurs de la fraternité, c'est d'être des auxiliaires des prêtres, notamment par l'amour de la messe, telle qu'elle se célèbre selon l'ancien rite. L'amour, la dévotion de la Sainte Messe, voilà qui leur permet de pénétrer à la suite des apôtres ce grand mystère de l'amour de notre Seigneur, de pénétrer comme les apôtres contemplant les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous remercierons le bon Dieu de nous avoir envoyé ces religieuses, nous prierons pour leur fidélité, et puis nous prierons pour d'autres vocations religieuses, qui en aient beaucoup, qui se joignent à elles, nous en avons tant besoin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.